Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à l'émission Église aux mille visages, présentée aujourd'hui par Guillaume de Clermont. Qumran, 12 km au sud de Jéricho, 20 km à l'est de Bethléem, à l'extrémité nord-ouest de la mer Morte. C'est là qu'il y a 60 ans, un jeune bédouin découvrait par hasard dans une grotte des poteries contenant des manuscrits d'une très grande importance, les manuscrits dits de la mer Morte. Une découverte extraordinaire pour la connaissance biblique, une découverte qui a fait couler beaucoup d'encre, une découverte dont les retombées sur la science des écritures bibliques et la connaissance du temps de Jésus sont loin d'être épuisées. Voyage dans les manuscrits de la mer Morte, ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pour parler des manuscrits de la mer Morte, je reçois aujourd'hui un jeune chercheur au Collège de France, Michael Langlois, qui consacre depuis plusieurs années son travail de recherche aux manuscrits de Qumran, et tout particulièrement au premier manuscrit d'Enoch. Michael Langlois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Michael, vous venez de publier un livre aux éditions du CERF, avec un titre, je dois dire, assez extraordinaire, peut-être un peu mystérieux aussi, on va le voir ensemble. Je cite le titre, « Le premier manuscrit du livre d'Enoch, étude épigraphique et philologique des fragments araméens de 4Q201 à Qumran ».
Oui, c'est ça.
Bon, alors est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce titre? Et c'est une manière évidemment d'entrer dans cette discussion sur les manuscrits de Qumran.
Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un manuscrit du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, c'est un pseudépigraphe, c'est-à-dire un livre qui a été attribué au personnage d'Enoch. Le personnage d'Enoch est mentionné brièvement dans la Bible. On n'a plus beaucoup de traces de lui après, mais un livre porte son nom. Et donc, on a eu la chance de trouver des manuscrits de ce livre à Qumran. Il s'agit là de publier le premier manuscrit découvert à Qumran de ce livre. En l'occurrence, il porte un sigle. Quand vous lisez 4Q201, en fait, c'est le sigle. Chaque manuscrit de Qumran se voit attribué d'un sigle. Le premier chiffre correspond à la grotte. En l'occurrence, c'est donc la quatrième grotte. Et puis ensuite, manuscrit 201, c'est le 201e manuscrit trouvé dans cette grotte. Il s'agit d'une étude épigraphique et philologique. Alors l'épigraphie, c'est la science qui s'intéresse aux inscriptions, aux objets qui sont inscrits. Donc on va regarder le texte sur l'objet lui-même, en l'occurrence c'est du cuir. On va essayer de déchiffrer, de reconnaître la forme des lettres. Et puis l'étude philologique, la philologie, c'est l'étude d'un texte dans sa langue, dans son contexte littéraire. Et on va essayer de découvrir le message, le contenu, la langue de ce manuscrit.
Alors, on va revenir sur ce travail dans la troisième partie de notre émission. Peut-être un petit retour en arrière avec vous sur les conditions dans lesquelles ces manuscrits de Qumran ont été découverts. Et donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler, au fond, vous avez parlé des grottes, des différentes grottes, etc. Qu'est-ce que c'est l'histoire, enfin, en quelques mots, finalement, de ces manuscrits?
Oui, en quelques mots, ben, écoutez, on est là au bord de la mer Morte, à quelques kilomètres de Jérusalem à l'est. Et en 1947, il y a un bédouin qui promène ses brebis et qui perd une brebis. Alors c'est un récit presque évangélique.
Ouais.
Et alors il va la chercher, il la trouve pas, il s'assied à l'ombre pour se rafraîchir. Et puis il voit l'entrée d'une grotte, il jette une pierre et il entend un bruit de céramique qui se brise. Ça l'intrigue, il rentre et là, il découvre des jarres avec des manuscrits. Alors il les ramène à Bethléem, il va les revendre à un antiquaire et ensuite c'est là que toute l'histoire commence. Ces manuscrits se voyagent, beaucoup de gens s'y intéressent, on vient faire des fouilles, mais vous savez ça se passe à l'époque, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a la création de l'État d'Israël. Alors c'est vraiment presque un jeu d'espionnage pour arriver à retrouver tous ces manuscrits. Les fouilleurs vont regarder dans les grottes de la région. Bien souvent, les bédouins sont passés avant eux, bien sûr, pour récupérer les manuscrits, pour en faire commerce. Et donc c'est un peu une course contre la montre entre les bédouins qui connaissent très bien la région et les archéologues qui vont fouiller le site qui est à côté, et puis toutes les grottes pour essayer d'en récupérer un maximum de manuscrits.
Mais alors, aujourd'hui, est-ce qu'on sait au fond combien de manuscrits ont été découverts dans ces grottes? Et est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils sont et physiquement où sont stockés ceux qu'on a répertoriés?
Alors, les manuscrits étaient très fragmentaires. Donc au début, on s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de fragments qu'il a fallu rassembler comme un puzzle. Il faut les rassembler pour en faire des manuscrits. Maintenant, on peut à peu près faire le compte. On estime qu'il y a environ 900 manuscrits qui ont été retrouvés dans les 11 grottes entourant le site de Qumran. Ces manuscrits ont été tout d'abord stockés dans un musée à Jérusalem, le musée Rockefeller, qui était à Jérusalem-Est. Et puis, lorsque les Israéliens ont pris le contrôle de l'ensemble de la ville de Jérusalem, les manuscrits ont été déplacés et sont aujourd'hui au musée d'Israël, qui est à Jérusalem-Ouest.
Alors, il y a eu beaucoup d'histoires, de rumeurs sur ces manuscrits. On a beaucoup écrit, ça fait couler beaucoup d'encre. On a parlé quelquefois d'affaires des manuscrits de Qumran, etc. Qu'est-ce qui a alimenté, au fond, cette espèce de climat de suspicion pendant des années, jusqu'à un temps encore très récent? D'ailleurs, en est-on vraiment sorti?
Alors, que vous oui, le problème, c'est que les spécialistes ont mis beaucoup de temps à les publier. Il faut voir que c'est un travail colossal, je le disais tout à l'heure, des dizaines de milliers de fragments à rassembler, ça prend des années. Au début, je pense que les spécialistes, les chercheurs qui avaient la charge de la publication de ces manuscrits ne se représentaient pas la charge de travail que ça représentait. Quand ils ont commencé à les publier, et ça assez vite après les découvertes, dès le début des années 50, on commence à publier les premiers manuscrits et on dit, eh bien voilà, on commence une nouvelle collection consacrée à ces manuscrits, on dit, il va y avoir quelques volumes, ça va faire quelques volumes, et puis on aura fait l'intégralité des manuscrits. Simplement, voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 39 volumes et pas quelques-uns seulement, et que ça demandait beaucoup plus de travail. Et il a fallu, à un moment donné, effectivement, étoffer l'équipe en charge de publication de ces manuscrits. Ça demandait beaucoup, beaucoup trop de travail. Alors évidemment, comme ces manuscrits tardaient à être publiés, que par ailleurs ce sont des manuscrits qui sont passionnants, qui révolutionnent l'étude de la Bible, évidemment, certaines personnes se sont demandé si par hasard, il n'y aurait pas des découvertes qui remettraient en cause peut-être les fondements même de la foi chrétienne. Et comme c'était une équipe de chrétiens qui s'occupait de la publication de ces manuscrits, on s'est dit peut-être que le Vatican a donné des consignes, etc. Donc tout ça, évidemment, ça a alimenté des rumeurs. C'était l'occasion d'écrire des bons romans et des films intéressants sur le sujet.
Alors, dans un instant, nous allons revenir précisément sur le contenu de ces manuscrits et vous allez nous aider à comprendre ce que ces manuscrits ont apporté à la connaissance biblique. Mais nous marquons tout de suite une petite pause musicale. Je suis en compagnie de Michaël Langlois, chercheur au Collège de France, pour revivre avec lui l'histoire des manuscrits de Qumran, pour qu'il nous explique l'apport de ces manuscrits à la connaissance biblique et qu'il nous parle de son travail de recherche. Alors, nous parlions il y a quelques instants des conditions dans lesquelles ces manuscrits ont été découverts. Michaël, est-ce que vous pouvez nous aider maintenant à comprendre au fond ce que ces manuscrits ont apporté à la connaissance biblique? Vous avez dit que c'est un travail colossal pour travailler sur ces manuscrits, pour les traduire, pour les explorer. Mais au fond, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que ces manuscrits peuvent nous apporter? Qu'ont-ils déjà apporté? Que peut-on en attendre encore?
Alors, c'est vrai que ce sont des manuscrits extrêmement précieux. On dit souvent que c'est la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. À juste titre, à mon avis. Parce que, alors on parlait tout à l'heure de l'apport pour la connaissance de la Bible. Eh bien, oui. Tout simplement, la connaissance de la Bible, ça commence par le texte biblique lui-même. Or, pour la Bible hébraïque, les plus anciens manuscrits que nous avions de la Bible en hébreu dataient de plusieurs siècles après Jésus-Christ, de 800, 900, 1000 ans après Jésus-Christ. La première Bible complète, c'est l'an 1000 à peu près. C'était quand même très tardif. On avait des traductions grecques, qui étaient finalement, dont on avait des manuscrits plus anciens, et donc on avait des doutes sur le texte hébreu en se demandant, mais finalement, avec tous ces siècles qui séparent la rédaction de ces textes, oui, des premiers manuscrits à notre disposition, que s'est-il passé quand on copie, recopie, recopie, recopie pendant des siècles? Il y a dû y avoir des corruptions. Et là, d'un seul coup, à Qumran, pour la première fois, on retrouve des manuscrits bibliques beaucoup plus anciens, qui sont même plus, qui datent pour certains avant même la naissance du christianisme. On parle souvent du grand rouleau d'Isaïe qui est exposé au musée d'Israël, qui fait plusieurs mètres de long, qui était très bien préservé, qui date de 100 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que d'un seul coup, on a fait un bond de 1000 ans en arrière pour pouvoir avoir sous les yeux les plus anciens manuscrits bibliques que nous ayons aujourd'hui découverts.
Alors j'imagine que un certain nombre de ces manuscrits ont déjà été explorés. Est-ce que on a appris des choses nouvelles sur le monde de la Bible, sur l'environnement de Jésus, sur l'époque de Jésus? Enfin, est-ce que ça nous renseigne finalement au-delà de ce que nous avions avec les connaissances bibliques jusqu'à ce qu'on trouve ces manuscrits?
Oui, absolument. Et ça, c'est vrai tant pour les manuscrits bibliques que les manuscrits non bibliques. Pour les manuscrits bibliques, par exemple, on se rend compte que tous ne correspondent pas nécessairement au texte que l'on connaissait par l'hébreu. Certains se rapprochent par exemple du texte que l'on connaissait par la version grecque dite des Septante. Et on a découvert une troisième qu'on appelle une troisième recension qu'on dit pré-samaritaine, qui correspond à ce qu'on appelle le Pentateuque samaritain. Tout ça c'était des traditions textuelles qui étaient portées par différents milieux juifs. Et la plupart de ces milieux juifs se sont éteints ou sont devenus très très minoritaires. Et ce qu'on connaissait jusqu'à il y a peu finalement, c'était cette tradition majoritaire, le judaïsme dit rabbinique. Et là, on se rend compte que cette image que l'on pouvait se faire du judaïsme contemporain de la naissance du christianisme était bien différente de celle que l'on pouvait imaginer auparavant. On a affaire à un pluralisme religieux. Il y avait beaucoup de milieux juifs différents, de la même manière qu'aujourd'hui on peut avoir différents milieux chrétiens, différentes églises, différentes dénominations. Eh bien, c'était la même chose à l'époque pour le judaïsme. Et ça, c'est très précieux pour nous, ça nous permet de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des tensions, pourquoi est-ce qu'il y a des livres qui sont portés par des milieux juifs, qui sont au contraire rejetés par d'autres milieux.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'exploitation de ces manuscrits? Quelle proportion finalement a déjà été explorée, décodée, rendue publique? Est-ce qu'il en reste beaucoup à travailler? Vous avez une idée de ça?
Oui, alors la première phase, c'était bien sûr de publier l'ensemble de ces manuscrits. Ouais. C'était une tâche colossale. Comme je disais, la collection officielle compte désormais 39 volumes. En fait, il en manque deux. Donc, il reste encore deux volumes de manuscrits qui doivent être publiés. Ils vont l'être très prochainement, je pense, dès l'année prochaine. Ceci dit, ces manuscrits sont déjà connus parce qu'on a accès à des photographies, donc on sait un petit peu ce que ces volumes vont contenir. Mais c'était toute la première phase, c'était la première génération de Qumranologues. Maintenant, la deuxième génération doit revenir sur ces manuscrits-là, d'abord tirer profit des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer la lecture, et puis également essayer de rassembler ces manuscrits qui sont souvent fragmentaires, de combler les trous, entre guillemets, en s'aidant comme on peut, d'une façon ou d'une autre, par les connaissances que l'on a également dans la littérature ancienne du judaïsme hellénistique ou palestinien, pour essayer de mieux comprendre justement ce monde de la Bible. Et là, il y a encore beaucoup de travail.
Une petite question là, en vous écoutant. On a l'impression du coup que c'est assez extraordinaire d'avoir trouvé tous ces manuscrits à Qumran. Qu'est-ce qui explique qu'ils étaient rassemblés là dans ces grottes? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on fait des hypothèses là-dessus?
Oui, bien sûr. Alors on fait des hypothèses, mais malheureusement on n'a pas de réponse définitive. Alors ce que l'on remarque, c'est que ces grottes sont à proximité d'un site archéologique. Ouais. Certaines sont à quelques dizaines de mètres seulement, c'est sur un petit promontoire rocheux, et juste là, à quelques dizaines de mètres, il y a les premières grottes, y compris les grottes qui ont fourni le plus plus de manuscrits. Alors on se dit certainement que ces grottes, les manuscrits dans ces grottes étaient liés au site. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses. Certaines personnes disent ces manuscrits ont été mis là d'un seul coup, tardivement, peut-être à l'arrivée des Romains qui détruisaient Jérusalem. Au temple de Jérusalem, il y avait une bibliothèque et donc on voulait éviter que tous ces manuscrits soient brûlés. Alors on les a emmenés à l'est de la ville, en direction de la mer Morte, et on les a mis dans ces grottes. D'autres disent non, les manuscrits n'ont pas été mis de façon précipitée, ça a été fait ça a été planifié, calculé, les grottes ont été creusées et en fait on les a mis là, mais ils viennent bien de Jérusalem, ils ont été mis là parce que on est au bord de la mer Morte, c'est un climat très sec, on est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer, donc on est dans une région très très sèche, il pleut presque jamais là-bas et donc les conditions de préservation des manuscrits sont bien meilleures qu'à Jérusalem. D'autres personnes vont dire ces manuscrits ont été produits par les personnes qui habitaient sur le site. Certaines personnes vont dire, mais ce site était une fabrique de manuscrits, on fabriquait les pots un petit peu plus en bas, et puis là, on avait des scribes, c'était leur métier, sur commande, si vous vouliez acheter un manuscrit biblique, vous passiez commande chez eux, et vous le fabriquez, et vous pouvez le recevoir. Et puis d'autres, enfin, disent que ce sont des manuscrits qui appartiennent à une communauté. C'est la théorie majoritaire, celle d'une communauté religieuse reculée dans le désert, de type essénienne ou esséno-coumranienne, et qui auraient produit cette littérature, et ce serait leur propre bibliothèque.
Alors, dans un instant, vous allez nous expliquer, Michael, comment on travaille sur ces manuscrits, puisque vous avez l'immense privilège d'aller travailler directement sur des fragments, mais nous marquons une petite pause musicale. Je suis en compagnie de Michael Langlois, qui, je le rappelle, est chercheur au Collège de France, qui travaille depuis plusieurs années sur les manuscrits de Qumran et plus particulièrement sur des fragments du livre d'Enoch. Alors, Michael, vous allez nous aider à comprendre, au fond, en quoi consiste le travail d'un chercheur sur un manuscrit de Qumran, sur un fragment. Très, très concrètement, faites-nous rêver comment on fait, finalement, pour travailler, comme vous l'avez fait, sur un fragment, et avec les techniques modernes, etc. Concrètement, comment ça se passe ?
Alors, je ne sais pas si je vais vous faire rêver, mais je peux vous expliquer, effectivement, les différentes étapes quand on travaille sur des fragments. D'abord, les fragments sont petits.
Oui.
Alors, la première chose qu'on fait, déjà, c'est d'examiner ces fragments. Alors on réalise des photos infrarouges pour permettre de reconnaître du texte là où le cuir est assombri. On n'hésite pas à regarder au microscope. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler sur des photos numérisées, haute définition. Donc on peut travailler sur informatique pour faire ressortir des niveaux de gris qui correspondent au texte pour que le texte se détache mieux de l'arrière-plan.
Ils sont stockés dans quoi, ces fragments ?
Ces fragments, aujourd'hui, sont stockés au musée à Jérusalem, sont sous des planches, des plaques de verre, et ils sont dans une pièce, bien sûr, dont on contrôle la température, l'hydrométrie. Ils ne sont pas exposés à la lumière. Certains d'entre eux sont, bien sûr, montrés dans une salle du musée.
Ouais.
De façon, d'ailleurs, on permute, on n'expose pas toujours les mêmes pour éviter qu'ils soient trop longtemps exposés à la lumière. Et puis ensuite, on les range. Ils sont donc stockés là. Alors, quand on a le privilège de travailler sur ces fragments, on prend rendez-vous, on explique la raison pour laquelle on a besoin de travailler sur les fragments, et ensuite, on peut aller dans un laboratoire laboratoire, une salle du laboratoire, pour pouvoir travailler sur ces manuscrits-là.
Alors, vous les regardez au microscope.
Oui, oui, oui.
Et l'étape suivante, c'est quoi? Une fois que vous les avez regardés...
Cette première observation permet déjà de reconnaître un certain nombre de lettres, de mots, de phrases, et il s'agit d'identifier. La première étape, c'est j'ai un fragment, mais de quel texte s'agit-il? Est-ce que c'est un texte que je connais? En l'occurrence, moi je travaille sur le livre d'Enoch, ce sont des fragments du livre d'Enoch. Est-ce que le fragment que j'ai sous les yeux appartient bien au livre d'Enoch? Et là, les difficultés commencent déjà, parce que je n'ai même pas un exemplaire complet du livre d'Enoch en araméen. Je n'ai que des versions... en grec, et ça, même pas pour l'intégralité du livre, en syriaque, et puis en éthiopien. Alors, il faut que je fasse, que j'imagine, j'ai ce texte en araméen, j'essaie de le traduire en grec, en éthiopien, j'essaie d'aller voir mes témoins grecs, éthiopiens, pour voir si ça colle. Souvent, ça colle pas tout à fait, mais ça colle suffisamment. Alors, on peut imaginer qu'il y a eu des petites des difficultés dans la traduction, enfin bref. Et on, avec un peu de chance, on arrive à dire, ce fragment, voilà où il va, il correspond... au livre d'Enoch, chapitre temps, verset temps. Ça, c'est la deuxième étape.
L'objectif, c'est quoi, finalement? La finalité de votre travail dans cette recherche, c'est quoi?
Bien, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu rassembler tous les fragments qui appartiennent à un même livre, on a pour la première fois accès à ce livre, en l'occurrence le livre d'Enoch, dans sa langue d'origine.
C'est ça.
Auparavant, on n'avait que des traductions. Et vous savez ce qu'on dit, traduire, c'est trahir.
Ouais.
On n'a jamais un texte parfaitement fidèle dans une traduction. Et ce sont souvent des traductions qui sont tardives. Certaines traductions ont été réalisées dans des milieux chrétiens, avec des influences chrétiennes. Et donc, on se pose la question en disant, mais quand même, c'était une composition littéraire juive. Quelles ont pu être les influences? Quelle était l'histoire de ce texte? On a la chance d'avoir des fragments très anciens qui datent du IIe siècle avant notre ère. Mmh. On n'est même pas sûr que le livre d'Enoch, à cette époque, avait la même apparence, la même physionomie que celle que l'on connaît par la version éthiopienne.
Oui.
Les différentes composantes, l'agencement des chapitres, les histoires qui sont relatées dans ce livre, on n'était pas sûr qu'elles étaient déjà présentes à cette époque-là. Et donc, ça nous informe sur la composition, l'histoire de la rédaction et sur les milieux, peut-être, qui ont produit ce livre passionnant.
Alors, vous avez justement, comme ça, fait des découvertes ou apporté, finalement, à la connaissance de ce livre d'Enoch des éléments complètement nouveaux dans ce travail de recherche.
Alors, oui, effectivement, il y a des nouveautés. Alors, il convient d'abord de signaler que je n'ai pas été le premier à travailler sur ce manuscrit-là.
Oui.
Comme je disais, la première génération des découvreurs, en l'occurrence Joseph Milik, avait, dès les années 50, commencé à travailler sur ces manuscrits-là. Il y avait une première édition en 1976, mais il faut imaginer qu'à l'époque, on n'avait pas les outils informatiques, on n'avait pas non plus tous les moteurs de recherche, les bases de données dont on dispose actuellement, qui permettent de mieux revérifier le texte. Donc moi, ce qui m'a permis, ce que ces outils m'ont permis de faire, c'est bien sûr de pouvoir reconstituer ce texte lorsque des mots étaient partiellement effacés, de pouvoir mieux les comprendre, même de travailler sur la langue. On est en araméen, mais il y a plusieurs dialectes araméens, et on peut s'interroger, est-ce que c'est de l'araméen plutôt occidental, oriental? Est-ce qu'on peut même envisager le lieu de rédaction de ce texte? Est-ce qu'on peut essayer de cerner géographiquement les milieux de production de ce livre? Et de ce point de vue-là, mon travail a permis d'apporter un certain nombre d'éclairages.
Alors, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous avez en perspective à la suite de cette première publication dont je citais le titre tout à l'heure? Je le rappellerai à la fin de notre émission. Et qu'est-ce qui s'ouvre pour vous comme champ de recherche?
Alors, d'abord, il y a d'autres manuscrits du livre d'Enoch à étudier. L'idéal, ce serait d'en faire une grande publication. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres manuscrits de Qumran qui ont besoin d'être édités. Signalons que je participe à un grand projet éditorial, également aux éditions du CERF, qui s'appelle la Bibliothèque de Qumran. Et c'est un projet en plusieurs tomes. Le premier tome vient de sortir et il s'agit de publier l'ensemble des manuscrits de Qumran avec le texte original sur une page et la traduction en français sur l'autre page, avec des notes abondantes. J'ai déjà travaillé bien sûr sur le livre d'Enoch, sur le livre des géants qui s'en rapproche, et je commence à travailler sur le grand rouleau d'Isaïe, sur d'autres textes grecs, des 12 petits prophètes. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de projets dans les années à venir sur Qumran.
Voilà, on annonce combien de volumes pour cette publication?
Oui, on compte à peu près 9 volumes, et ça, faudra voir si on arrive à s'y tenir.
Eh bien, Michael, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre tout ce travail sur les manuscrits de la Mer Morte, les manuscrits de Qumran. Je rappelle que vous avez donc publié un livre qui est le livre de votre thèse, dont je redonne le titre, le premier manuscrit du livre d'Enoch, étude épigraphique et philologique des fragments araméens de 4Q201 à Qumran. Merci d'avoir été mon invité, Michael, et bonne chance, bonne continuation pour vos travaux de recherche. C'était donc l'émission Église aux mille visages, consacrée aujourd'hui aux manuscrits de la Mer Morte. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire à RCF Saint-Aignan, 51 boulevard Aristide Briand, 45001 Orléans, CEDEX 1. Merci pour votre fidélité et à bientôt.